La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 17e émission de la Semaine de l'Art avec notre invité aujourd'hui, Bertrand Gauthier.
Bonjour.
Bonjour Bertrand, de la galerie Talabardon et Gauthier, galerie parisienne bien connue, qui vend beaucoup de 19e siècle, mais qui s'intéresse aussi, on le verra, aux époques plus anciennes.
C'est arrivé.
La chronique.
Nous ne cessons de déplorer l'absence d'Aurélie Filippetti sur le terrain du patrimoine et des musées. Nous nous sommes ainsi amusés à élaborer quelques statistiques à partir des discours que celle-ci a prononcés depuis son arrivée au ministère de la Culture. Pour 89 cérémonies de décoration, Légion d'honneur ou Arts et Lettres, remises en personne par la ministre, pas une ne concernait une personnalité en rapport avec les musées. Et seules 4 avaient un rapport avec le patrimoine. Encore, ces 4 personnes étaient-elles des directeurs régionaux des affaires culturelles, soit des fonctionnaires du ministère lui-même. Pas un seul propriétaire de château, ces véritables héros qui se battent pour faire vivre des monuments que l'État serait bien en peine de restaurer. Pas un seul membre d'une association de protection du patrimoine qui font souvent ce que l'État n'ose pas faire, se battre contre les vandales et les traîner devant la justice. Un seul historien de l'art a été décoré en personne par la ministre, une historienne de l'art en l'occurrence, l'anglaise Jennifer Montagu, spécialiste de la sculpture et de Charles Le Brun. En revanche, pour le cinéma, Aurélie Filippetti a remis elle-même les décorations à pas moins de 28 personnes, pour la chanson également. C'est évidemment plus chic d'être vu aux côtés de Bruce Willis et de Chaka Punk. Si l'on regarde les autres discours hors décoration, dont le nombre est de 124, le constat est tout aussi accablant. En comptant large, très large même, ce qui a trait à l'histoire de l'art et au patrimoine a été traité 10 fois. 13 si l'on compte les discours sur l'enseignement artistique et culturel, qui n'abordent en réalité le sujet de l'histoire de l'art que de manière très marginale. Moins de 10% donc des interventions de la ministre sont consacrées, de près ou de loin, au patrimoine et au musée. Comme s'il s'agissait d'un détail pour ce ministère. À vrai dire, il est probable que de telles statistiques auraient donné la même chose pour les précédents titulaires de ce portefeuille, mais on est particulièrement frappé par l'absence d'Aurélie Filippetti sur des sujets qui devraient constituer pourtant une part essentielle de ses actions. La plupart du temps, et cela en devient presque comique, lorsque son intervention est prévue dans le calendrier, c'est toujours un de ses directeurs qui intervient, excusant la ministre, entre guillemets, appelée par d'autres obligations. Ce désintérêt manifeste est dramatique. Il se traduit par des baisses budgétaires plus importantes que pour le reste. Il démobilise les acteurs sur le terrain. Il donne un bien mauvais signal à tous. Et pourtant, depuis quelques jours, on assiste à un événement très étonnant, dont on doute hélas qu'il soit pérenne. Un timide réveil d'Aurélie Filippetti sur les dossiers qui nous concernent. En effet, comme nous le dirons tout à l'heure, elle vient de demander l'enlèvement d'une bâche publicitaire Place des Vosges. Elle annonce également aujourd'hui l'inscription d'un hôtel particulier qui avait été mis en instance de classement 7 rue des Grands Augustins. Il est vrai qu'il abritait un ancien atelier de Pablo Picasso et que le récent démêlé entre le ministère et le fils du peintre incite à aller dans ce sens pour calmer la famille. Enfin, pour en revenir au musée Picasso, il semble que la ministre souhaite faire partir Anne Balazari, ce qui, de notre point de vue, cela n'étonnera personne, serait une excellente chose. Enfin, et nous en remercions ici Vincent Bergeau, le directeur des patrimoines, les choses semblent bouger à Louviers et à Bourges, dossiers dont nous avions révélé la gravité dans nos colonnes. Bref, une conclusion s'impose. Pour le ministère de la Culture, en dehors des questions budgétaires, ce qu'il faudrait, c'est un véritable intérêt, une véritable motivation, de la passion, tout simplement, pour un des plus beaux métiers qui soit, protéger le patrimoine et les musées.
Bertrand, une belle profession de foi.
Qui n'étonnera personne, je pense.
Non.
Bertrand Gauthier, vous êtes donc marchand à Paris depuis un certain nombre d'années maintenant. Mm-hmm. Comment êtes-vous devenu marchand? Vous travaillez avec Bertrand Talabardon.
C'est la raison principale. En fait, c'est une histoire d'amitié, tout simplement. Je pense que j'aurais jamais eu le courage de me lancer dans une telle aventure si ça n'avait pas été avec quelqu'un. Le métier de marchand est un métier qui n'est pas simple. Le fait d'être deux est un atout. Bertrand Talabardon, qui est l'œil et qui a véritablement la direction artistique de cette maison, est un vrai connaisseur, un vrai passionné, ce que je ne suis pas fondamentalement. Non.
Votre modestie n'est pas bonne ici.
Non. Je dis ce que je pense. Et je pense qu'il faut. Vous savez, tu sais que en tant que marchand, il faut toujours avoir une certaine distance à l'égard de soi-même, à l'égard des objets que l'on a, à l'égard des objets qu'on regarde. C'est très important d'avoir justement un esprit critique. Et bon, je ne suis pas né pour être marchand, je ne suis pas le fils de quelqu'un, je n'ai pas d'appétence particulière pour ça. Simplement, bon, il s'est trouvé que le parcours de l'existence a fait que j'ai décidé, à un moment précis de ma vie professionnelle, de participer à cette aventure, parce que c'est une vraie aventure d'entrepreneur, parce qu'un marchand est un entrepreneur. Nous vivons dans des conditions qui sont celles du libre-échange et du commerce. Bon, et en même temps, j'ai découvert un métier absolument extraordinaire et passionnant.
Alors vous avez commencé, vous avez ouvert votre galerie avec Bertrand Delavarne
En 1992, c'est-à-dire que j'avais déjà quand même déjà une existence professionnelle derrière moi.
Vous faisiez quoi avant?
Je m'occupais d'images et d'images à TF1 et en l'occurrence d'images de politique étrangère. Donc je m'occupais d'illustrer ce qu'on pourrait appeler l'inillustrable. Donc ça avait quand même un lien avec
l'image. En fait.
Iconographe, c'est un terme un peu réducteur. Non, aux États-Unis, bon, j'ai appris que le mot existait. C'est un petit peu comme Jourdain. J'ai appris que je faisais du producing sans le savoir. C'est-à-dire que dans le système des news, l'image est absolument essentielle. Un événement sans image n'est un événement qui n'existe pas, qui ne peut pas exister. Donc il est très important de trouver non seulement des images pour illustrer, ça c'est le rôle des gens qui sont sur place, mais aussi de trouver des liens et quelque part, parfois pour illustrer des concepts, pour illustrer des réflexions, de trouver des images qui fonctionnent et qui permettent d'avancer, parce que l'image a toujours, et c'est très important pour le métier que je fais, parce que je vends des images, l'image va plus vite que la parole, va plus vite que le texte. C'est-à-dire qu'elle joue sur l'émotionnel, et de ce point de vue-là, elle permet de rentrer directement dans le cœur du sujet. Le rôle, justement, d'un bon producteur, c'est quelqu'un qui arrive à trouver des images qui permettent d'emblée de rentrer dans le sujet, et qui permettent pas nécessairement de raconter une histoire, parce que dans le cas des news, c'est pas tout à fait le cas, mais d'arriver à l'événement. Parce qu'on a très peu de temps pour parler de choses qui sont parfois terribles et dramatiques.
Et vous vous intéressez déjà à l'histoire de l'art
ou... Je me suis toujours intéressé à l'histoire de l'art. Ça, c'est sinon je serais pas là. Mais je me suis toujours intéressé à ce que signifie une image. Une image n'est jamais quelque chose de neutre. Ça m'a toujours fasciné. Et ce que j'aime, c'est décortiquer une image. Donc ça m'a quelque part préparé à décortiquer une œuvre. Parce que ce qui est intéressant, dans le rôle du spectateur, parce que je n'ai pas du tout ni l'ambition ni la capacité d'être un créateur, j'aime regarder les choses. Et j'essaie de les comprendre. Sachant pertinemment aussi que le fait de comprendre ne suffit pas. Il y a un moment où il faut savoir... renoncer à comprendre, parce que tout simplement on est touché, on est ému. Et c'est disons l'instant que je cherche. Et dans mon métier, ce qui est une des merveilles de ce métier, c'est que pour des tas de raisons qui tiennent au fait que c'est un métier qui pose toute son énergie, qui mobilise vos possibilités financières, intellectuelles, au-delà de toute limite, vous êtes amené à comprendre les choses et comprendre quelque part votre goût. Parce que c'est ça qui est important, un marchand est quelqu'un qui a un goût, on lui demande de trouver des choses et en même temps d'avoir un goût. J'ai l'impression qu'en un peu plus d'une vingtaine d'années, j'ai affiné complètement ma sensibilité. Bon, on me dirait que ça n'intéresse que moi. Mais d'un autre côté, je veux dire que c'est un métier, où, et ça c'est un autre aspect, c'est un métier où on rencontre beaucoup de gens. Et le milieu de l'histoire de l'art, du marché de l'art, ça c'est peut-être un petit peu une petite pierre dans le jardin de Madame Filippetti. Le milieu de l'histoire de l'art est un milieu absolument passionnant parce qu'on y rencontre des gens qui sont hors normes et que certains pourraient qualifier de dinosaures parce que c'est des gens qui vivent dans un autre monde mais qui sont de réels passionnés.
Ce qui est vrai, c'est dans notre monde qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous et les auditeurs de la Tribune de l'Art, de la Semaine de l'Art, aux lecteurs, ça intéresse quoi, 1%, 0,5%
Je ne crois pas qu'il faut dire ça. Je ne pense pas. Non. Et c'est de ce point de vue-là, l'analyse, ça revient à l'analyse de l'image. Je crois que l'art, c'est un grand mot. Disons que les mythes que véhicule l'art, de manière générale, et les représentations dites artistiques, parce que c'est assez complexe, c'est un jugement de valeur que de dire qu'une œuvre est... Bon. Mais à partir du moment où une œuvre véhicule quelque chose, il est important d'en pouvoir saisir les clés. Et de ce point de vue-là, l'éducation artistique est absolument nécessaire. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui que l'image... Et mon métier, mon premier métier, m'a conduit à m'en rendre compte peut-être un peu plus que le spectateur moyen. L'image conduit tout aujourd'hui. L'image participe à l'espèce de show permanent dans lequel on est. Et contrairement peut-être à la Renaissance ou à, disons, une période de l'âge moderne, l'image n'est pas une clé. Elle est quelque chose qui est une succession d'événements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de théâtral aujourd'hui dans la façon dont l'image est véhiculée et utilisée dans le monde. Elle nous amène à autre chose. Et il faut faire très attention parce que cette autre chose nous empêche de réfléchir sur ce que l'image signifie sur le moment. Je parle peut-être un peu de manière abscon,
c'est des limites presque philosophiques.
Non, c'est pas le propos. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est très important, à mon avis, de pouvoir arriver à s'arrêter sur une image. L'image arrêtée est paradoxalement a un impact beaucoup plus fort qu'on ne croit et plus fort que l'image en mouvement. L'un des rôles justement de l'histoire de l'art, à mon sens, c'est souvent de pouvoir faire une image arrêtée et de comprendre justement cet instant. Je prends une image toute bête. C'est une image que les gens connaissent. La guerre du Vietnam est représentée toujours systématiquement. Il y a deux, trois images qui ont fait le tour du monde. Il y en a une qui est terrible, c'est cette jeune fille nue qui court sous un plan de napalm. C'est une image arrêtée que les gens ont retenue. Et pourtant, c'était une image, c'était un film. Ça tenait aux raisons, disons, techniques du moment. C'est-à-dire qu'en fait, pour que une photo arrivait plus vite en Occident... venant du Vietnam, qu'un film. C'est une question de développement. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais il faut se rendre compte que l'impact de cette image fixe, je crois, nous touche peut-être beaucoup plus profondément que l'image animée. Mais il faut tenir compte aujourd'hui que la sensibilité moderne, elle est quelque part en mouvement. Et ce qui me fascine dans les œuvres qu'on peut trouver, parce qu'on ne trouve pas toujours que des œuvres géniales. Ce qui est intéressant, justement, c'est d'essayer de comprendre les œuvres qu'on peut trouver, qui arrivent là, on est des passeurs, d'une certaine façon. Ces œuvres, elles ont un impact encore aujourd'hui, par-delà le temps et par-delà les siècles. Je pense que, bon, le métier de marchand est très souvent, on parlait du patrimoine, c'est un grand mot, mais le métier de marchand permet très souvent à quelque chose qui était enseveli, qui était perdu, qui est de réapparaître. Ça, je trouve ça très émouvant. Je ne pense pas que, bon, tout mérite de réapparaître, mais c'est quand même une bonne chose de temps en temps que de se rendre compte que des artistes, somme toute considérés comme mineurs, peuvent aujourd'hui réapparaître grâce à notre travail.
Alors, on reparlera effectivement des découvertes que vous avez pu faire, parce que c'est une part importante du métier de marchand, en particulier de votre galerie. Revenons donc à la création 92, et très rapidement, donc vous étiez rue de...
On était rue Sainte-Anne,
c'est ça,
voilà. Oui, on était rue Sainte-Anne. En 92, c'était une période assez terrible, c'était une période où les galeries avaient plutôt tendance à fermer qu'ouvrir, et ça a été quelque part notre chance, parce qu'en fait, notre apparition a été d'autant plus remarquée que les gens avaient plutôt tendance à disparaître. Et on a... on a progressé, puisque maintenant nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré. On a accompagné, disons, dans les 20 dernières années, l'évolution du marché à notre niveau. Il faut rester. Et c'est pas simple. Mais, encore une fois, bon, je pense que Paris, dans lequel je me suis beaucoup investi, parce que je pense que le métier de marchand est un métier où on rencontre, je vous ai dit, des gens extraordinaires, mais il y a aussi des marchands extraordinaires. Paris a un potentiel extraordinaire.
Alors, ça tombe très bien, puisque c'est effectivement mon deuxième sujet, l'état du marché de l'art à Paris. Donc, quitte à marcher, on a tendance à... On dit bien sûr, on regrette par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Mmh. En tout cas, vous nous dites qu'il y a 20 ans, ce n'était pas extraordinaire, justement. Mais il y a 30 ou 40 ans, ou 50 ans, où Paris était peut-être le premier, la première place. Alors c'est vrai que Paris a cédé la place à Londres.
Depuis les années 50, l'après-guerre a été catastrophique pour Paris. Bon,
actuellement, c'est quand même bon... qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous participez, vous participez au Salon du Dessin, vous êtes un des...
Non, l'Europe, il faut voir d'abord déjà à l'échelle européenne. L'Europe a quand même quelques atouts. Elle a l'atout d'abord d'avoir déjà de la marchandise, ce qui est moins important. Elle a su créer une foire, notamment la foire de Maastricht, qui est la première foire au monde dans son domaine, ce qui est quand même assez, c'est un atout, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est, je veux dire, l'Europe a vraiment, on est au milieu des élections européennes, c'est une chose importante. Je veux dire que c'est un marché, le marché de l'art est un marché qui, à un certain niveau de qualité, se négocie au niveau international. Ça explique d'ailleurs la disparition d'énormément de galeries régionales, ce qui est terrible parce que c'est tout un maillage qui a disparu, mais c'est une évolution du marché. La mondialisation, on l'a connue beaucoup plus tôt que les autres secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, une œuvre d'art, à partir du moment où elle est considérée à tort ou à raison comme quelque chose d'important, elle se négocie au niveau international. Ça se négocie avec les grandes institutions internationales, les grands collectionneurs. Bon. Et de ce point de vue-là, il a fallu accompagner le marché. Et Paris... nous avons fait quelques bourdes de ce point de vue-là. Les conditions n'étaient pas toujours très favorables depuis les années 50. Maintenant, je pense que les gens qui sont restés, les gens qui restent, sont des gens qui sont absolument passionnés par leur métier. Il y a beaucoup de choses à faire en France. Il y a une chose extraordinaire en France, c'est qu'il y a un réseau de petits collectionneurs qui est, je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, il y a un sens de la collection en France qui est très particulier, qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça, c'est une chance pour le marché. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que nous avons encore des galeries et des marchands qui restent personnels. Ça me semble vraiment essentiel. C'est-à-dire que face aux mastodontes que sont les maisons de vente, face aux grandes sociétés quasi anonymes que sont les grandes galeries anglo-saxonnes, le marché français a une carte qui est celle de sa personnalité, qui est celle de ses individus, en fait.
On voit même des jeunes marchands qui ouvrent des galeries, ce qui est plutôt encourageant.
C'est tout encourageant, c'est admirable, parce qu'aujourd'hui, moi, ma génération... a une chance encore extraordinaire, même si nous en profitons beaucoup moins que les générations précédentes, où il était possible... Vous savez, le marché de l'art est un domaine assez particulier. Vous avez des gens qui sont des fils de marchands, donc ils continuent, ils profitent, disons, de l'élan, et ils ont leur propre personnalité. Je veux dire, la grille des Kugel était un exemple parfait d'une dynastie qui a su continuer à se développer et à trouver et avoir une personnalité. Mais c'est aussi un domaine dans lequel quelqu'un qui arrivait, sans fortune personnelle, sans lien relationnel, simplement par sa force de conviction, son sens de l'énergie, de l'aventure, sa prise de risque et son travail, parce que c'est un métier où, paradoxalement, on travaille beaucoup, pouvait arriver à créer une entreprise et devenir de grands marchands. Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile, parce que l'investissement que représente le stock... parce qu'une galerie, c'est un stock.
Vous étiez parti d'un stock vous-même, ou vous
non. Avez... non, c'était la collection que nous avions réunie, Bertrand et moi, en une dizaine d'années. Mais bon, c'était pas... Il y avait des choses très bien, hein. Parce qu'on trouvait déjà des choses très bien. On trouve toujours des choses. C'est pas ça. Les gens qui vous disent qu'on ne trouve pas, on trouve toujours. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... la mise de fonds n'était pas énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un concours bancaire. D'abord, on ne l'aurait pas trouvé. Et je ne pense pas qu'on puisse se trouver encore aujourd'hui. Mais on pouvait arriver à faire des choses. Aujourd'hui, un jeune marchand qui démarre, c'est très compliqué. Parce que il trouve un objet, il est obligé de s'en défaire très vite. La marchand est quelqu'un qui doit pouvoir garder. C'est absolument essentiel de pouvoir avoir une politique de stock. D'abord parce que ça permet aux gens de ne pas aller chercher le client, ça permet au client d'arriver à vous, parce qu'il sait que vous avez des choses. Ça permet d'établir un tissu relationnel, et ça permet de progresser.
Et d'étudier les œuvres, si vous avez le temps de les étudier.
Parce qu'il n'y a pas que les œuvres. Dans ce métier, il y a les œuvres et il y a les collectionneurs. Pour pouvoir rencontrer les collectionneurs, parce que c'est essentiel, ça aussi. Les gens ne se rendent pas compte, mais un marchand est quelqu'un qui va... On est quelque part des chiens de chasse. Ça, il y a un côté chasse dans le métier. Bon, je suis pas très chasseur, mais mon associé l'est beaucoup plus que moi. Mais dans cette chasse, dans cette quête, vous trouvez des choses. Et ce qui est merveilleux, c'est de trouver la personne qui est en adéquation avec ça. Ça vous permet de rencontrer des gens extraordinaires. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Il ne faut pas simplement aimer les objets. C'est une vision complètement fausse que d'imaginer une espèce de cousin ponce perdu dans son coin qui contemple de manière complètement égoïste son trésor. C'est pas ça. Le collectionneur peut être comme ça parfois, mais le marchand ne peut pas l'être. Le marchand est un individu de relation. C'est quelqu'un qui rentre en contact, qui met en contact des objets avec des collectionneurs, qui en font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on apprend énormément de tous ces gens. Parce que c'est tout un savoir accumulé. Parce qu'encore une fois, tu as commencé sur l'histoire de l'art, mais le marché, l'histoire de l'art est née du marché d'une certaine façon. Mais très tôt. Très très tôt.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Paris Tableau?
Oui, bien sûr. Donc, on a parlé de Maastricht. Bon, Paris Tableau, c'est une tentative de 10 marchands.
C'est la quatrième édition.
Oui, c'est ça.
C'est quand même 4,
mais
pas rien.
Ça commence à s'installer. On va être 24. Ce qui est, je trouve, quand même déjà très bien.
Et comment faites-vous pour agrandir la bourse?
Bah, en fait, ça va être un peu compliqué. Mais enfin, on a trouvé une solution.
Si vous construisez un appendice à la bourse, je vais voter.
Ça sera avec un permis de construire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une tentative déjà de faire connaître notre métier, ça c'est le point de départ, de porter le marché parisien, qui existe mais qui a du mal à vivre, et surtout de redonner une dimension internationale justement à ce marché. Paris, que je le disais tout à l'heure, a des atouts. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe. C'est-à-dire qu'à Paris, les gens peuvent profiter de la vie de parisienne, des musées parisiens, du tissu relationnel qui existe, et ça peut créer l'enveloppe qui est propice à l'achat. Et puis, il y a le fait que tous ces marchands, ces marchands qui ont fait, sont tous animés d'une part de la même passion, qui est la passion de leur métier, d'un respect, disons, d'un certain nombre de règles déontologiques. Et ça nous permet, en étant une organisation de marchands et non pas une organisation de foire, de choisir, disons, les gens avec qui on aime travailler. Et la dimension du salon permet à chacun d'exprimer sa personnalité, qui sont parfois des personnalités antinomiques. Tout le monde n'aime pas la nature morte hollandaise 17e. Bon, mais on a de très très bons, il y a de très bons marchands qui sont là. Tout le monde n'aime pas nécessairement le 19e que je peux défendre, mais je suis là. Enfin, je veux dire que c'est très important parce que la taille du salon permet à chacun de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas dans de très grandes manifestations où fondamentalement il faut essayer d'attirer tout de suite l'intérêt du visiteur parce qu'on sait qu'il passera et il ne repassera pas. Là, on sait que les gens vont pouvoir s'attarder parce que c'est à dimension humaine. Et ça, bon, le modèle a été évidemment le Salon du Dessin, qui était vraiment une réussite. Je pense que dans le cadre de la peinture, on peut arriver à quelque chose du même type. Peut-être faut-il quand même un peu plus d'exposants, mais c'est une évolution. En tout cas, ça prouve le dynamisme du marché, parce qu'il y a des gens jeunes parmi les organisateurs. Et Bon, il y a une volonté. Je veux dire que actuellement, le marché est en pleine mutation. Vous avez des gens qui commencent à renoncer, tout simplement. C'est assez simple. Et puis, vous avez des gens qui vont de l'avant. Les crises, je pense, sont un petit peu, de ce point de vue-là, propices à révéler la nature des gens. Éric Coetelem vient de reprendre l'ancienne galerie de Patrice Bélanger, qui était l'ancienne galerie Cailleux. C'est l'exemple type qu'il y a des gens qui croient vraiment à la possibilité de développer le marché à Paris. Parce que c'est une grande galerie, c'est une grande ambition. Il défend un 18e qui n'est pas toujours facile auprès des gens de la jeune génération. C'est un pari sur l'avenir. Je crois qu'il y a une reconcentration des choses qui s'opère actuellement. Et je pense que, bon, c'est vital, hein, parce que sinon on disparaîtra. Et ces marchands ont justement décidé de faire quelque chose. Ça, c'est bien.
Les nouvelles très très brèves.
Aurélie Filippetti, donc, nous l'avons dit dans notre chronique, a demandé le retrait d'une affiche sur la place des Vosges. Très bonne initiative, d'une affiche publicitaire, bien sûr, pour une marque d'ordinateur ou d'iPad, d'iPhone. Très bonne initiative, mais ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau tant que l'on ne se décidera pas à prendre ce problème à bras-le-corps. Non seulement de nombreux bâtiments à Paris, sous couvert de badges publicitaires, mais comme semble le montrer cet exemple, en prolongeant leur durée, pour gagner un maximum d'argent, défigure Paris, parce que cela a beau être temporaire, il faut savoir que le temporaire, plus le temporaire, plus le temporaire, il y a toujours des publicités à Paris. Donc il y en avait sur la place des Vosges, il y en a actuellement sur la place Vendôme, et là je soupçonne également, enfin je ne soupçonne pas, c'est marqué dessus, ça a été prolongé également, donc et à chaque fois qu'on passe, comme par hasard, on n'entend pas de travaux. Donc
Est-ce que je peux me permettre d'interrompre cette... Il y a des photos merveilleuses du début du siècle qui montrent le Paris 1900 pour lequel on est en train de faire une exposition. C'est un Paris où la publicité était infiniment plus présente qu'aujourd'hui. Je crois que c'est la vie. La publicité est un art en soi. Je veux dire que là, de ce point de vue-là, je suis...
N'oubliez pas que d'afficher Place des Vosges, Place Vendôme, bientôt demain, si ça sur peut la permettre, place de la Concorde...
Didier, si ça peut permettre à... Je veux dire que moi, je suis entrepreneur. Je sais que vous êtes aussi entrepreneur. C'est pas simple de se lancer dans une opération qui est la vôtre. Et c'est très courageux.
Mais je ne ferai pas de publicité sur la Place de la Concorde. Je n'ai pas les moyens de le
faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On ne change pas la société dans laquelle on vit. La société dans laquelle on vit est une société où l'argent est roi, ça c'est un fait, où l'image est reine, donc c'est assez logique qu'il y ait un lien entre l'un et l'autre. Ça a toujours été un peu le cas. Je trouve qu'à partir du moment où... Parce que, vous savez, les échafaudages, bon, c'est pas toujours très très beau, hein, quand même. Alors, qu'il y ait une affiche dessus... Bon, de toute façon, c'est du temporaire. N'oublions pas jamais que le patrimoine, c'est pas l'éternité, mais enfin, c'est quand même sur une distance un peu plus grande. Si ça peut permettre de restaurer quelque chose, moi, je suis pas contre.
Alors, je regrette que nous n'ayons pas le temps d'en débattre. Et vous le savez, je vous ai dit juste avant cette émission que nous parlerons du Louvre à Boulébi, pour lequel nous ne sommes pas d'accord non plus. Je ne savais pas que nous n'étions pas d'accord sur la publicité, mais ce n'est pas très grave. Donc, on pourrait débattre de tout cela, et nous le ferons certainement. Mais je dis du temporaire, et du temporaire, en tout cas... Le temporaire, quand vous avez du temporaire, 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 et qu'ensuite c'est autre chose qui est temporaire, 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 on va avoir ça pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. À Venise, rappelons-le, la publicité a été dénoncée par de grandes personnalités internationales, et actuellement, apparemment, on arrive à le faire diminuer. Moi, je pense que la publicité, il y a différentes manières d'obtenir l'argent. Je pense que la publicité, d'obtenir l'argent en défigurant des bâtiments, parce que, en général, si c'était encore des... Mais en général, on sait très bien que c'est toujours la marque à la pomme qui va mettre son logo rouge et vert, etc., vert et jaune, pardon. Et
ça datera à l'époque. Mais
en
je
tout
veux
cas,
dire
en
que...
tout cas, il va y avoir, donc il va y avoir pendant 2 ans sur l'Automobile Club, qui l'Automobile Club, le pauvre, n'a pas d'argent pour restaurer la façade sur la place de la Concorde. En tout cas, Aurélie Filippetti a demandé ce retrait. Je signalerai par exemple le 133 rue Saint-Antoine, où la publicité est également sur une façade où on n'entend pas beaucoup de travaux, mais il y en a peut-être, hein, il y en a certainement, d'ailleurs, je ne voudrais pas dire qu'il n'y en a pas.
Mais qu'il y ait des gens qui abusent de la situation, c'est certainement le cas.
C'est
mais bon. Enfin, voilà. Ça, c'est donc, aux autorités de tutelle de veiller.
C'est pas grave. mais je maintiendrai de toute façon. Mais ça veut dire que je pense, j'aimerais bien faire une véritable émission de débat. Sur, il y avait des émissions, vous savez, de télévisées, de débat, mais pour le moment, ça coûte assez cher, donc j'espère bientôt pouvoir les reprendre. En tout cas, on peut faire des débats radiophoniques et je ne manquerai pas de vous inviter le jour où nous parlerons de la publicité sur les bâtiments. Je pense que je vais le faire bientôt.
Bon.
Et donc, je vous réinviterai.
Bon.
Autre nouvelle un peu triste, l'incendie du cinéma de Saint-Jean-d'Angély, qui était un cinéma des années 30, un des rares cinémas des années 30 plutôt bien conservé en région. Et malheureusement, l'ancienne municipalité l'avait un peu laissé à l'abandon. La nouvelle municipalité qui a été élue voulait le restaurer et elle n'a pas eu le temps puisque ça a brûlé. On a sauvé deux bas-reliefs et la municipalité a dit qu'elle allait le reconstruire. Alors évidemment, les reconstructions est toujours un petit peu, reconstruire un bâtiment détruit, c'est toujours un peu compliqué. Mais quand il vient d'être détruit, on peut comprendre qu'on puisse éventuellement en garder le souvenir en le reconstruisant. En tout cas, je renverrai un article de France 3 sur le site qui permettra de voir la belle façade, hélas, détruite. Vous avez sur cette...
Sur la idée des reconstitutions et des reconstructions, parce que
c'est un débat,
donc ça risque d'être un peu long.
Alors, autre nouvelle que... Alors, c'est pas une revue de presse, mais j'ai pu instruire un peu plus, donc je renvoie, c'est quand même, je l'ai appris par leprogrès.fr, dans le petit village de Tervet, qui se trouve dans le Jura, le maire avait cru bon de vendre des tableaux de l'église, dont certains étaient protégés monuments historiques, pour payer la restauration du statut de l'église. Le préfet du Jura alerté par la DRAC, a porté plainte, et donc il vient d'être condamné, le maire, mais le maire et le brocanteur qui ont été condamnés à 1000 euros avec sursis. Ce que je trouve absolument...
Mais est-ce qu'on a récupéré les œuvres ?
Non, même pas. On n'a même pas récupéré les œuvres. Elles ont été vendues à Besançon et à Lyon, en espèces et sans avoir le nom des acheteurs. Donc, j'ai des photos. La DRAC, qui a bien fait son boulot, d'ailleurs, m'a envoyé des photos. Donc, je crois que les tableaux ne sont pas exceptionnels. En fait, si on regarde la liste des tableaux, je ne pense pas qu'il y avait des chefs-d'œuvre, mais il y avait des œuvres anonymes. Donc, peut-être dans ces œuvres anonymes, des tableaux.
Non, mais enfin, je prendrais le problème à l'envers.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce sont des œuvres qui
donc,
ont l'air comme ça. Bon, s'ils n'ont pas tellement d'intérêt, elles en ont d'autant moins à partir du moment où elles disparaissent de l'endroit où elles étaient,
elles avaient
été placées.
Voilà. Un tableau, je crois.
Voilà, et ça c'est assez grave parce que le contexte est très important. Et je ramène tout simplement, ça me permet d'évoquer une personnalité de tout premier plan qui est un homme absolument merveilleux, qui était un très grand muséographe, qui est Georges-Henri Rivière, qui a tenu compte justement du contexte des choses.
Georges-Henri Rivière qu'on n'a pas bien traité puisque son musée est actuellement
c'est un scandale.
Entièrement en caisse. Nous sommes d'accord sur ce point, il n'y a pas de souci. Voilà, donc quand nous aurons pu ouvrir le fichier, qui était un petit peu compliqué à ouvrir, quelques images de ces tableaux, qui effectivement avaient certainement une valeur, surtout en place. Et il est quand même invraisemblable qu'un maire, encore aujourd'hui, puisse penser disposer de tableaux d'une église.
Mais le temps où la mairie de Liège pensait vendre un Picasso, ouais, n'est pas si éloigné. Et Détroit, l'affaire de Détroit,
c'est pas.
Non, mais je veux dire par là que bon, c'est un problème.
Interdit, hein, là, c'est interdit.
Oui.
Alors, venons à la deuxième partie de l'interview avec un invité, mais c'est un vrai plaisir et qui.
C'est gentil, c'est partagé.
On pourrait faire presque une deuxième émission parce que je crains que nous n'allions pas au bout. Alors, revenons l'évolution de la législation, c'est très important, parce que je pense qu'un environnement législatif
favorable, ou qui serait tout simplement neutre, c'est pas ça. Non, je pense qu'un si un environnement juridique ou légal est neutre, je veux dire, bon, non, il doit être juste.
Et
stable, oui, mais c'est vrai que la législation n'est pas toujours... favorable au patrimoine, qu'elle soit favorable aux marchands, bon, écoutez, ça c'est un autre débat. Chacun va défendre
Là, je m'interroge, je suis sur le marché, non pas parce que est-ce qu'il y a des choses donc que vous aimeriez que qui soient votées ou enfin des nouvelles mesures.
Il y a des choses.
La législation vous convient.
Je ne sais pas, parce que je ne la connais pas vraiment, ce qui c'était pas très très bien de dire des choses pareilles. Enfin, disons que ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt des choses beaucoup plus générales, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'une entreprise moyenne, parce que ce sont de petites entreprises, les galeries, ne bénéficient pas d'un environnement, je ne dis pas juridique, c'est pas ça, c'est pas simple. C'est pas très très simple et je pense que de ce point de vue-là, nous ne sommes peut-être pas assez défendus. Je crois que nous faisons un vrai travail. Je crois que, je veux dire, essayer d'entreprendre quelque chose en France aujourd'hui, trouver des sous, prendre des risques, investir systématiquement tout ce que vous pouvez gagner dans votre entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est quand même honorable et que tout entrepreneur aujourd'hui connaît. Et c'est pas. Parce que s'il y avait des dispositions qui permettaient, disons, de présenter peut-être les choses un petit peu différemment, c'est peut-être un peu utopique ce que je dis, mais la notion d'investissement dans son entreprise est très importante. Et dans le cas d'un marchand, c'est capital. Je veux dire que son stock, c'est, c'est sa survie, c'est sa vie. Je pense qu'on ne peut pas considérer réellement le fait d'acheter systématiquement des œuvres uniquement sous l'angle financier, à partir du moment où c'est quelque chose qui alimente la dynamique de l'entreprise. Alors, je suis peut-être, de ce point de vue-là, je parle de façon un peu brouillonne, mais quand généralement un comptable ou certains de nos clients regardent l'état, disons, comptable, enfin en l'occurrence des bilans de galeries, ça peut arriver, ils sont un peu atterrés. Enfin, je veux dire, c'est un peu un problème. Je pense que il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose là-dessus. Mais ça, bon, je pense qu'il doit y avoir des on a un syndicat, il y a des. J'espère qu'ils font quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et je pense que pour les jeunes marchands, c'est terrible. C'est pas. Or, il faut qu'il y ait des jeunes marchands. Il faut qu'il y ait des jeunes marchands pour une raison très très simple. C'est que nous vivons dans une société où l'argent est roi, ça je l'ai dit. L'individu est vénal. L'objet n'acquiert une valeur patrimoniale que parfois assez tardivement. Il faut qu'elle ait déjà une petite valeur financière. Si elle n'a pas une petite valeur financière, les gens s'en foutent et les gens la mettent à la poubelle. Et de ce point de vue-là, le rôle du marché est essentiel. Nous sommes des brocanteurs hein, au départ. Je veux dire par là que nous regardons ce que personne ne regarde. Et quand ces choses que personne ne regarde ont un minimum de petites valeurs financières, eh ben on nous les vend. Et puis nous essayons de les porter ailleurs.
Alors justement, nous arrivons à notre prochain sujet, donc tout est parfaitement rodé. Quels sont les pas 50 œuvres, mais donnez-nous quelques histoires, quelques œuvres qui sont passées par votre galerie. Alors, si je vous lance là-dessus, je sais que vous allez être très désert, donc prenons 2 ou 3 heures. On peut parler éventuellement peut-être d'un tableau dont on a beaucoup parlé sur la...
Oui, ça faudrait rendre hommage quand même à la façon dont la presse libre nous a soutenus. C'est très bien.
On parle évidemment de Caspar David Friedrich, parce que c'est un vrai problème, je pense, pour les marchands en France, parce qu'à l'étranger, ça ne se passe pas comme ça. Quand à l'étranger... Un marchand ou un musée, d'ailleurs, parce que le Louvre a eu les mêmes problèmes que vous avec
tout à fait.
Ça. Quand un marchand trouve un tableau, l'identifie, l'achète en vente publique, on ne parle pas ici d'escroquer une petite vieille, juste d'acheter en vente publique devant tout le monde une œuvre, et je sais en plus comment vous l'avez fait, c'est-à-dire que vous l'avez fait de manière très
sportive.
Culottée, très sportive, parce que vous l'aviez vu très peu de temps avant sur. C'est ce tableau de Caspar David Friedrich, le hibou plutôt que la chouette d'ailleurs. Vous l'avez vu très peu de temps avant sur le site Interenchères, et puis vous avez. Demandez quelques photos complémentaires, vous avez enchéri sans même avoir vu le tableau, vous auriez très bien pu vous tromper et personne ne vous aurait remboursé le montant
non.
que vous avez payé.
Non, c'est normal. Voilà. Je veux dire qu'un métier, c'est
le risque. Le problème, c'est que vous avez très bien joué d'ailleurs en négociant, en anticipant les problèmes. Grâce à.
Anticiper les problèmes n'est pas tout à fait ça. Disons qu'on a été confronté aux problèmes, donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Ça serait plus juste de dire ça.
Voilà. Disons que c'est comme ça, effectivement. Parce que c'est plus
non, parce qu'il faut voir aussi que cette juridiction. Qui est peut-être parti d'un bon sentiment.
Je renvoie le lecteur de la tribune, ceux qui ne seraient pas au courant, à taper Caspar David Friedrich sur le site, vous trouverez tout le déroulement de cette histoire.
Non, ce que je veux dire, c'est que cette loi, enfin cette disposition, c'est pas dans l'écrit, enfin, c'est plus compliqué que ça, je ne suis pas suffisamment juriste pour pouvoir analyser ça, et je laisserai ça à d'autres. Non, par contre, ce qui est important, c'est que peut-être qu'il y a une intention qui est tout à fait louable. Je veux dire que quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose par le fait du hasard, ou, qui le met en vente et qui, quelque part, constate que l'objet qui a été vendu n'a pas été vendu à son juste prix ou a été mal présenté, a effectivement la possibilité, avec cette disposition, de pouvoir faire casser la vente. Bon, le problème, c'est que, quelque part, on ne reconnaît que ce qui, justement, est sorti un petit peu de l'ordinaire. Quand un objet est estimé 200 euros et qu'il en fait 1500, 2000, 3000, voire 10 000, bon, on se dit que, bon, après tout, c'était peut-être un peu mieux que ce qu'on pouvait penser. Et puis, il faut aussi comprendre une chose, c'est que quand des commissaires-priseurs ont un inventaire à faire et que tout doit disparaître, bon, s'ils commencent à mettre des estimations hors de proportion, d'une part, ça ne va pas attirer les gens et ça ne permettra pas aux gens de rêver. C'est très important, les gens aiment bien rêver. Et les marchands sont de grands rêveurs. Bon, c'est légitime. Le problème, c'est qui est absolument injuste, c'est que à partir du moment où vous prenez des risques, à partir du moment où vous estimez quelque chose, que vous l'avez compris, que vous êtes passionné pour ça, c'est pas, encore une fois, bon, c'est bien sûr qu'il y a une histoire d'argent dans tout ça, parce que l'argent permet quand même à une entreprise de fonctionner, mais vous pensez bien que si nous étions amenés à mesurer réellement les risques que nous prenons dans le métier qu'on fait, je ne sais pas si on irait très loin. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que toutes les sociétés financières qui se sont lancées dans des opérations de marchands, enfin de galeries, à moins de les soutenir et d'avoir des danseuses, généralement, ça s'est soldé par des catastrophes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre des risques et en France, il faut avouer qu'on a effectivement la possibilité de trouver des choses, mais il est vrai aussi que si vous trouvez cette chose et que cette chose apparaît, disons, dans un éclairage un peu différent, vous risquez d'être privé du profit légitime. Ce qui s'est passé pour les Pardo, et c'est absolument scandaleux, parce qu'ils avaient vraiment pris des risques énormes financiers, ils avaient fait preuve d'audace et ils avaient compris l'œuvre. C'est quand même ça qui est essentiel. Le résultat, c'est que ça les a complètement cassés. Et ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas normal. Et tout ça, bon, ce qui est absolument ahurissant, c'est que c'est le découvreur qui aujourd'hui se retrouve taxé et se retrouve dépossédé de son invention, parce que c'est une invention. Alors, bon, que ça empêche des gens, des marchands de vivre, très bien, il y a des tas de professions qui ont disparu, d'accord. Mais il y a une chose qui est très importante et qu'il faut que les gens comprennent, c'est que d'un point de vue patrimonial, c'est catastrophique. Parce qu'à partir du moment où, parce que des cas comme le Friedrich, il n'y en a pas 36 000, puis c'était Friedrich. Donc ça bénéficie d'un certain... Poussin... Bon, à partir du moment où on est en dehors des seuils, et nous allons dans une société qui va être de plus en plus ouverte, l'œuvre, elle a tout intérêt à quitter la France. Et il est évident qu'il y a des œuvres qui sont sorties de cette façon-là. Alors, le problème, c'est que c'est quasiment du pouce au crime, cette histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous défendez quelque chose officiellement...
Et puis qu'on fait son métier, c'est vraiment...
Oui, mais c'est son métier.
Devant tout le monde, où tout le monde peut enchérir.
Tout le monde peut enchérir.
Il y a des intermédiaires qui, à la limite, peuvent être responsables.
Mais il faut aussi que les gens comprennent que tout le monde peut enchérir. Bon, enchérir n'est pas une chose si simple. Je veux dire, c'est un métier aussi. Je veux dire, les gens croient que...
C'est un métier, je l'ai écrit dans un...
Je pense que c'est un petit peu comme si les gens, à partir du moment où ils ont une caméra en face d'eux, peuvent s'amuser à être Marlène Dietrich dans la minute. Non, ça se fait pas comme ça. Il faut être Marlène Dietrich avant de passer dans la caméra. Je dis pas que nous sommes des Marlène Dietrich, mais il faut un certain talent pour acheter en vente, quand même. Ça s'improvise pas absolument. Il faut savoir prendre des risques et accepter de perdre autant que de gagner. Ça, un privé ne s'en rend pas tout à fait compte.
Sauf les collectionneurs. Un collectionneur, normalement, c'est acheter.
Le souci du collectionneur est différent quand il achète en vente publique. C'est que le collectionneur n'est pas confronté à la nécessité risque de la revente.
Bien sûr.
Donc il peut avoir, vis-à-vis de l'objet, il peut se tromper, mais il peut surtout ne pas avoir envie de constater qu'il s'est vraiment trompé. Un marchand, s'il a un minimum de déontologie, et que l'objet qu'il a acheté, auquel il a cru, des évidences vont lui apparaître, déjà si lui-même, bon, une fois le soufflet retombé, il se rend compte que bon, c'est pas exactement ce qu'il croit, ou si des avis autorisés lui disent, mais écoutez, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il est obligé, il est confronté à une réalité. Le collectionneur a la réalité de sa collection, ce qui la rend très sympathique, mais c'est pas exactement le même regard.
La revue de presse.
Nous allons faire une revue de presse extrêmement courte parce que nous préférons écouter Bertrand Gauthier. Et il y a beaucoup de sujets que nous voulions aborder, que nous n'aborderons peut-être pas plus entièrement. Alors, très rapidement, une revue de presse. Le Louvre est partout à l'affiche. Nous avions parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, de l'article « dossier » entre guillemets de Télérama que nous avions trouvé effectivement très mauvais. Là, vous pouvez lire... L'Express a sorti un numéro spécial, l'Express dans l'histoire en images, grand format numéro 9. Je ne connaissais pas cette collection de l'Express. La grande histoire du Louvre, du plus secret des palais au plus beau des musées du monde. C'est vraiment assez grand public, c'est intéressant, c'est très factuel, ça n'engage pas beaucoup. Mais enfin, il y a beaucoup d'informations, je pense que c'est quelque chose qu'on peut acheter pour connaître les questions sur le Louvre actuellement.
Acheter un billet et aller au Louvre, c'est déjà... Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire.
Bien sûr, mais j'estime que...
Aider la presse aussi.
J'estime que tous les lecteurs de la Tribune de l'Art le font régulièrement.
Oui, je pense qu'ils
sont même amis du Louvre, certainement.
Ils sont même amis du Louvre,
voilà. Dans Le Monde, aujourd'hui, qui vient de paraître aujourd'hui, trois articles qui forment un vrai dossier, avec des articles plutôt bien, avec une interview de Jean-Luc Martinez. Donc Jean-Luc Martinez s'exprime aussi dans l'Express, il s'exprime là, il s'est beaucoup exprimé sur la Tribune de l'Art. C'est vrai qu'il sa politique, il l'a... à son honneur, il l'a décrit et l'explique. Deux articles, donc, l'un sur le Louvre Abu Dhabi, une affaire juteuse, j'y renverrai, nous ne reviendrons pas. Nous allons revenir certainement sur Abu Dhabi avec Bertrand Gauthier. Et le Louvre fait sa mue, le musée du Louvre fait sa mue, où il raconte ce qui se passe, où le journal raconte ce qui se passe, avec les problèmes et également que connaît le musée du Louvre d'une réorganisation, etc., mais d'une manière beaucoup plus informée, à mon avis, beaucoup plus juste que ce qu'on pouvait lire dans Télérama. Également, on ne va pas en discuter ici très longtemps. Sur le musée Picasso, plusieurs articles dans la presse. Je mettrai des liens vers trois d'entre eux qui ont des tonalités un peu différentes. Hein. Le journalisme, je pense, n'est pas neutre. Ne peut pas être neutre et n'a pas vocation à être
neutre. J'espère qu'il n'est pas.
Les journalistes doivent être engagés, me semble-t-il. C'est ce qu'on fait en tout cas sur la Tribune de l'Art. Ce qui ne veut pas dire la neutralité. On n'est pas neutre, mais on fait ça honnêtement, ce qui est différent. Donc Harry Bellet dans Le Monde est plutôt favorable à Anne Balassari, polémique sur la réouverture du musée Picasso. Bernard Geniès dans une directrice sur le grill et un fils en colère est plutôt neutre, et, enfin neutre, c'est-à-dire qu'il ne prend pas parti. Et Vincent Noce est plutôt, je dirais que...
Il rappelle tout simplement la mission régalienne, c'est-à-dire que l'État est quand même propriétaire de ses œuvres.
Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a quand même eu, je pense, pendant un certain temps, un certain laxisme de l'État, parce que rappelons quand même que le musée Picasso a fermé pendant au moins environ 6 mois ou un an avant les travaux, pour pouvoir envoyer la collection dans le monde entier et la louer. Je trouve que là, peut-être à cette époque-là, Claude Picasso aurait peut-être pu réagir à cela, parce que c'était quand même assez scandaleux de fermer le musée alors qu'il n'était pas en travaux. Mais bon, voilà, donc toujours est-il que le musée Picasso était vraiment un peu dans la tourmente, et qu'on verra ce qui se passera. Renvoyons également, alors on mettra un lien également vers la restauration d'une église. Chaque semaine, là c'est la restauration de l'église Saint-Martin de Chandier pour montrer que c'est possible de restaurer les églises et que des mairies le font. Il y a beaucoup d'articles dans la presse régionale qui rendent compte de restauration d'église. Donc chaque semaine, on mettra au moins un lien vers un article qui montre qu'on peut restaurer l'église même dans des villages.
Je juste une chose à propos de Picasso, je me permets de revenir à une chose. Il ne faut pas oublier que muséographiquement, l'installation de Simonet était assez remarquable et j'espère qu'elle n'a pas été complètement...
Je crains que si, j'ai visité le chantier, c'était complètement bouleversé. Je pense que ça a dû être...
C'est assez dommageable parce que c'était une très bonne présentation muséographiquement.
Alors je crois que vous vouliez dire aussi d'un article de Libération que je n'ai pas nommé.
Oui, c'est
très, très brièvement.
Oui, ça concerne le juridique, enfin, c'est l'occurrence.
Voilà, oui,
oui, c'est assez important. Enfin, le métier dans lequel nous travaillons est un métier où. Voilà. D'accord, bon, je sais pas noté. C'est à propos de l'affaire Wildenstein, en fait. Il y a eu un jugement très important. En deux mots, c'est pas très compliqué. Je veux dire que les experts sont bons, sont mauvais. Mais il faut admettre une chose, c'est qu'ils ils consacrent un temps important de leur existence à ce travail. Et il faut respecter ce travail. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas demander à un expert s'il estime au fond de lui-même que l'œuvre n'est pas d'un artiste, qu'elle est de l'artiste. On peut amener des arguments qui sont suffisamment solides. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, tout le monde se trouve la bonne voie. Mais on ne peut pas, alors qu'il n'y a pas d'argument plus dans un sens que l'autre, demander à un expert de se violenter. On ne peut pas lui demander non plus des dommages et intérêts sous prétexte que l'œuvre n'a plus de valeur. Et c'est très bien que, justement, dans ce cas précis,
c'est-à-dire qu'en fait, c'est un tableau de Claude Monet, qui de Claude Monet ou pas, Vincent Dors, quand il écrit, pense qu'il est faux, mais je n'en sais rien. En tout cas, Wildenstein, qui a refusé de l'inclure
Et les catalogues raisonnés de Wildenstein sont de très bons catalogues, scientifiquement.
À raison ou à tort, je n'en sais rien. Peu importe, et je dirais peu importe, on n'a pas à lui imposer
de le
mettre, comme on n'avait pas imposé à l'expert de médecin G, dans une affaire précédente qui était jugée également dans le bon sens. Donc là, de temps en temps, on est...
Qui était jugé dans le bon sens, il faut savoir en plus que dans le cas de l'expert de Messinger, on lui réclamait des dommages et intérêts, ce qui est complètement
ahurissant. Et
puis c'est une façon de rendre tout juridique dans notre société, qui est un peu aberrant.
C'est pas les juges qui vont dire si un tableau est bon ou pas.
Moi j'étais très récemment confronté à une situation où je me suis retrouvé avec un juge qui estimait qu'un tableau était bon alors qu'il a été peint sur une toile, et c'est sa toile d'origine qui a été fabriquée 2 ans après la mort de l'artiste. Donc, bon, les juges...
Ça ne devrait pas être aux juges de juger ça.
C'est pas leur propos. Voilà.
Alors, revenons. On a parlé d'Abu Dhabi. Alors, comme la tribune de l'art, je n'ai absolument pas peur de la contradiction, mais le problème, c'est qu'il faudrait une fois de plus faire un vrai débat. Vous êtes, je sais, nous en avons parlé souvent, vous êtes, vous, plutôt favorable à ce contrat. Sachant que, moi, ma position est très claire, j'étais défavorable à cette affaire. Maintenant qu'elle a été signée, il faut l'honorer le mieux possible. C'est ce que j'ai écrit dans des articles encore récents. Au mieux possible, c'est-à-dire le mieux possible pour les musées français et pour les Émiriens. Je pense, en l'occurrence, que ce n'est le cas ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Maintenant, 2 mots, pas plus, et je ne vous interromps pas, nous ne débattrons pas. Oui, 2 mots, mais je suis désolé parce que
Il est très important aujourd'hui de rendre à la culture son aura. Quelque part, l'affaire Abu Dhabi y a contribué. Ça montre que quand un État parle avec un autre État, la culture a son rôle à jouer. Et Abu Dhabi a joué de tout temps. De toute façon, il y a toujours eu un petit versant culturel. Alors bon, je préfère qu'on vende des tableaux ou qu'on installe un musée dans un pays lointain plutôt que d'aller lui vendre des bombes. Vous me direz, le problème, c'est que parfois,
l'un permet l'autre. On n'a pas vendu des rafales, mais bon, c'est bien l'objectif.
Peut-être, mais enfin, toujours est-il que le fait que on essaye de créer un havre de culture occidentale dans un endroit qui n'avait pas précisément cette vocation, je pense que c'est une belle idée. C'est pas négatif que des gens se soient attelés à cette aventure. Je trouve que c'est très bien. Le monde est ainsi fait que, en plus, c'est ce genre d'événements qui font qu'on en parle. Je pense qu'on aurait créé un musée, en Hongrie,
J'aurais protesté de la même manière.
Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu un écho. Là, je pense qu'il y a un ensemble d'éléments. Il y a de l'argent, il y a le pétrole, il y a les armes, il y a tout ça. Bon.
Pas à Lens et j'avais protesté de la même manière.
Lens, c'est un autre problème. Oui. C'est autre chose. Là, on parle d'une conception et je pense que, c'est un peu inégal tout ce qui est présenté, mais il y a des objets qui sont parfois vraiment très très beaux. C'est un ensemble, c'est une tentative. Bon, je pense que le point de départ, là, il y a peut-être, mais ça, c'est pas à moi qui appartient de dire la chose, je pense que tous les musées et très souvent, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même un noyau. Là, ils partent de rien. C'est très difficile. L'avantage, quand il y a au moins un noyau, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait peut-être fallu avoir déjà une collection achetée dans son ensemble. La collection Euro, par exemple, aurait pu constituer un noyau. Et puis après, vous pouvez développer. C'est beaucoup plus simple. Là, le problème, c'est que tout créer d'un coup, C'est extrêmement difficile et je pense que ça a été un challenge extrêmement dur à relever pour les conservateurs et que ça explique certaines faiblesses. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une tentative qui est honorable. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'elle ait mérité toutes les insultes, entre guillemets, qu'elle a pu savoir, et tous les arrière-pensées qu'on a pu imaginer. Je pense qu'Henri Loiret avait réellement une vision. Moi, je pense que c'est important d'avoir une vision culturelle. C'est important d'avoir une vision qui, quelque part, avait à voir avec le Louvre, cette vision universelle. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la vision universelle du Louvre. C'est pas mon musée préféré. Je serais plutôt de tendance à trouver la National Gallery de Londres peut-être plus
humaine.
Pas question de plus humaine, ça correspond plus au goût. Et je pense qu'un musée doit avant tout, premièrement, présenter des belles choses.
D'accord. Nous pourrions parler d'Abbé longtemps, et j'ai dit que nous ne débattrons pas.
Nous ne débattons pas.
La Tribune de l'Art fait preuve de ça.
D'accord.
Toutes les opinions peuvent s'exprimer. Voilà. Deux mots, enfin, je suis désolé, je suis obligé de vous couper parce que. Je préfère ne pas dépasser la durée d'une heure.
Je serais bien, je me tais.
Non, pas du tout, vous ne me dépassez pas pour vous taire. Au contraire, un mot quand même sur votre goût pour l'architecture, très important.
Oui, je pense
que je vous rencontre, c'est
essentiel. Je pense que c'est.
Et deuxièmement, sur la défense du patrimoine, sur là, nous nous
retrouvons. Ça va ensemble. Je pense que l'architecture est quelque chose que les gens. Là, je reviens à M. Jourdain, c'est-à-dire que les gens font tous de l'architecture sans s'en rendre compte. L'architecture est une chose d'abord qui est gratuite. Vous dire les choses, vous vous promenez dans la rue, elle appartient à tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait de la publicité, j'aime bien qu'elle vive, la rue. Et la rue, on la remarque à partir du moment où on comprend qu'une colonne, qu'un fronton, qu'un détail d'appareillage a un sens. Le décor n'est jamais gratuit. Et dans l'architecture, ça n'est jamais le cas. Ou alors c'est un très mauvais architecte. Oui, dans ce cas-là, ça révèle la médiocrité d'une époque. Je veux dire par là que c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Promenez-vous dans la rue. Je veux dire que l'un des grands mérites de quelqu'un comme Bruno Foucart, qui a été un grand historien de l'architecture, c'est d'avoir ouvert les yeux aux gens sur le fait que ces horribles façades haussmanniennes, que ces violets du cerise, ces choses, ces pâtisseries et tout, il y avait quelque chose derrière. Il y avait une logique, il y avait une tentative, il y avait une création. Et de ce fait, les rues deviennent un peu moins sinistres. Promenez-vous dans le centre de Paris. Chaque mètre peut retenir votre attention. La promenade est plus lente, vous marchez. Plus vous vous éloignez, plus quelque part, vous n'avez pas le sens patrimonial, entre guillemets, en éveil. Et votre œil glisse. Mais votre œil n'a pas à glisser. Toutes ces créations existent. Il faut essayer de les décrypter. Et c'est un plaisir permanent. Je terminerai sur une exposition, à mon avis, tout à fait méritoire, qui a été faite aujourd'hui.
Vous anticipez,
mais ça va directement, parce que je veux parler justement d'une architecture extraordinaire. Si l'exposition Paris 1900, qui a lieu aujourd'hui, a le mérite de faire comprendre aux gens qu'un des espaces urbains les plus beaux de Paris, les plus exceptionnels, et qui doit son existence aujourd'hui, je pense plutôt au fait, à l'incurie de la municipalité et au fait que les gens...
De la municipalité parisienne.
Oui, de manière générale. Les gens ne se sont pas préoccupés, donc c'est resté intact. Je parlais tout simplement de l'espace de l'Esplanade des Invalides, du Petit et du Grand Palais, de cet espace extraordinaire, qui est un des plus beaux espaces urbains construits à la fin du 19e au début du 20e, avec le pont Alexandre III.
Je voulais vous parler justement parce que vous étiez, on en a parlé très peu de temps après qu'on ait lancé ces idées folles de l'avenue Foch.
C'est ahurissant, mais c'est un crime, bien sûr. Je veux dire que Paris est une ville 19e. Paris était la capitale du 19e. C'est la ville de la modernité. Je n'ai pas la peine d'aller chercher Walter Benjamin pour ça. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Paris est une mise en scène 19e qui doit beaucoup à Haussmann. À d'autres, mais disons de manière rapide, à Haussmann. C'est-à-dire que les objets beaucoup plus anciens qu'on peut trouver, ils sont mis dans une mise en scène, enfin ils sont présentés dans une mise en scène 19e. Toucher à cet urbanisme, le massacrer, ne pas le comprendre.
La place de la République.
La place de la République, je serais plus, oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est plus complexe que ça. Je pense qu'il est plus grave pour moi de mettre dans une des rues les plus, à mon avis, les, Il y a une rue merveilleuse qui s'appelle la rue Mélée. La rue Mélée où il y a eu quelques très bons ébénistes. Cette rue est quasiment intacte. Bon, la municipalité, pour des raisons d'herboristerie, je ne sais pas, enfin bon, a planté au milieu, dans un endroit au coin du pont et biche, ils ont planté 4 malheureux arbres qui se battent en duel. Bon, c'est antinomique avec la logique de cette rue. Je veux dire qu'il faut comprendre la logique urbanistique. Pourquoi pas construire effectivement des immeubles avenue Foch et puis utiliser la parcelle? Non, le problème, c'est que cet espace est un chef-d'œuvre de l'urbanisme. Il faut essayer de comprendre à quoi ça correspondait, à quoi correspondait cette percée. Le fait que c'était un jardin. Voir l'état de cette avenue aujourd'hui, c'est proprement scandaleux. J'ai des espèces d'énormes poteaux de bois qui soutiennent des lampadaires faméliques, alors que c'était une avenue qui avait été conçue pour être une des plus belles avenues du monde. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que de ne pas comprendre ça? Je ne m'illusionne pas sur le caractère, enfin bon, je pense qu'il y avait un côté un petit peu polémique de la part de la municipalité de rêver tout haut au fait qu'on pouvait effectivement modifier cet espace.
Je pense qu'ils n'ont pas renoncé, moi je crains qu'ils n'y aient pas renoncé.
Bon, je ne sais pas s'ils ont renoncé, en tout cas bon, on se battra. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de riche ou pauvre. L'architecture, elle appartient à tout le monde. La qualité d'un urbanisme, il appartient à tout le monde. Et une des choses les plus importantes, il y a une exposition qui était, à mon avis, absolument catastrophique, et ça renvoie à l'autre précédente majorité, il y avait le projet pour Paris, le Grand Paris. Bon. Des architectes, il y avait 20 architectes qui étaient censés présenter des projets pour les aménagements. Mais ces gens n'ont jamais été en banlieue. La banlieue, il y a des choses extraordinaires en banlieue. L'une des premières choses qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'ils habitent des endroits qui sont parfois historiques, dans lesquels il y a la trame d'un ancien château, il y a des constructions du 19e extraordinaires. Vous allez du côté, vous continuez tout le long de la rue de Choisy, c'est pas très drôle, vous allez tout au bout. Et à un moment, vous arrivez, vous avez une maison extraordinaire en céramique, qui était la maison d'un industriel de la céramique. Bon, je ne me souviens plus exactement du nom, mais ce que je veux dire, c'est que des découvertes comme ça, vous en trouvez partout. Vous retrouvez des petites folies qui restent. Vous avez un parcellaire qui montre qu'en fait, à cet emplacement-là, il y avait un noyau urbain différent. Mais tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et ça, c'est très important de permettre aux gens de se l'approprier. Et c'est le rôle de l'histoire de l'art et du patrimoine.
Alors, on ne fait pas ce métier sans passion, enfin, que ce soit journaliste d'art, historien d'art, conservateur, marchand. Mmh. Et je crois que vous le prouvez bien, même si nous ne sommes pas sur 2 ou 3 points d'accord. Et je regrette d'ailleurs... Je trouve intéressant d'ailleurs que cette discussion montre qu'il y a vraiment besoin d'organiser une émission, c'est celle que je voulais faire, de débat.
Mmh. Et je pense que la place de la République, qui, je pense, au niveau sur le plan, la réalisation qui est haussmannienne, n'était pas précisément une réussite parce que ça tenait au fait que ça avait été modifié. Je trouve que ce qu'ils ont fait pour les gens qui habitent, n'est pas nécessairement pour la circulation de problématique, enfin bon, mais c'est pas si mal, vraiment.
Alors je crois vraiment que vous êtes la première personne qui pense cela, c'est intéressant. Encore une fois, je ne vous bride pas, nous en parlerons lors d'un débat sur l'urbanisme parisien, ce sera intéressant, je vous convierai. Vous avez été extrêmement désiré, mais au contraire, c'est très bien, mais simplement, nous n'avons plus le temps de parler des livres, et nous en parlerons finalement la semaine prochaine, quand nous avions peu...
Juste un petit mot, oui. comme un certain nombre d'émissions de France Inter qui est très bien à la fin des gens donnent. Je parle du masque et la plume. Allez voir l'exposition Rodin Malpertop.
Oui, vous
ça me paraît très importante. Ça paraît une exposition qui a été conçue pour, disons, faire plaisir à l'esprit du temps, la juxtaposition du moderne et de l'ancien. Il y a réellement un lien entre ces œuvres. Regardez l'âge des reins recouvert d'un voile. Et les photos autour de tissus des voiles de Malpertop, il y a vraiment un lien. Et c'est très beau.
Je n'ai pas vu l'exposition, je ne peux pas en juger, mais nous incitons, en tout cas Bertrand Gauthier invite les lecteurs et les auditeurs à aller voir l'exposition Rodin Malpertop au musée Rodin. Merci beaucoup Bertrand Gauthier pour votre passion et que vous faites partager, je pense. Et la prochaine émission donc sera diffusée le jeudi 15 mai à 18h avec Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux. Je pense que nous ne serons pas forcément d'accord non plus
J'espère.
Sur tous les points. Et donc à la semaine prochaine. Merci pour avoir écouté cette émission.